France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, à l'écoute de France Culture en ce dimanche matin, Jean-Luc Gadreau avec vous pour Soleil, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Et c'est une rencontre, un portrait d'artiste plus précisément que je vous propose ce matin. Quelqu'un que vous avez pu déjà entendre si vous êtes un fidèle de Soleil, et en particulier pendant le temps du carême, puisque ses compositions accompagnaient les conférences de la pasteur Marie-Pierre Courneau autour du personnage de Ruth. Le compositeur et pianiste Alessandro Sgobbio est mon invité. Bonjour Alessandro Sgobbio.
Bonjour à toutes et tous.
On vient à l'instant de plonger dans votre univers avec une réminiscence du carême protestant, puisque ce morceau ouvrait chaque émission. Depuis ce premier album, Aphorismi Protestanti, Alessandro, vous poursuivez un parcours créatif, personnel, caractérisé par des compositions et des improvisations qui souvent jouent avec le thème de la foi. Vous ne cessez de développer votre propre vocabulaire sonore entre composition, improvisation et exploration spirituelle, aimez-vous dire. Alors vous êtes italien, on a entendu le petit accent déjà dans les quelques mots. Souvent présenté comme, et là je cite un magazine bien connu, une nouvelle étoile qui brille au firmament du jazz italien. J'ai trouvé ça très, très beau. Il faut dire que vous collectionnez les prix, les récompenses, vous êtes reconnu internationalement, installé à Paris et donc engagé dans le jazz et dans l'improvisation, mais aussi présent musicalement dans la vie de paroisse protestante parisienne. Nous en reparlerons plus tard. Vous venez de publier Piano Musique 3 pour le label AMP Music et Records, un disque très intime, presque méditatif, qui conclut une trilogie pianistique. Alors, quelle en est la cohérence, le fil conducteur? Qu'est-ce que ce projet représente pour vous, ces trois albums et celui-là en particulier?
Alors, en particulier, ce dernier album, c'est un peu, si on peut dire comme ça, l'idée de récupérer et mettre ensemble toutes les expériences que j'ai faites au cours des dernières 5 années, où je me suis un peu plongé dans cette idée de créer une trilogie pianistique, c'est-à-dire de documenter, si on peut dire comme ça, un peu toute mon expérience qui est partie effectivement en 2010 avec un premier album, mon tout premier album d'ailleurs, qui s'appelle justement Aphorismi Protestanti. Et effectivement, ça faisait au moins 12 ans que je ne sortais pas des albums en solo, d'où l'exigence de vraiment de me dédier à ça, faire ces petits projets de trilogie. Et ces derniers albums, justement, ils profitent aussi de toute une série d'expériences qui ont eu lieu grâce à la publication des 2 premiers volumes, c'est-à-dire une série de résidences, notamment aussi à Paris, dans le club de jazz La Gare-Légor, où j'ai eu vraiment la chance de pouvoir jouer plusieurs week-ends et plusieurs dimanches de résidence, aussi avec des invités spéciaux, des batteurs comme Christophe Marguet et Michele Rabbia, qui m'ont justement accompagné, même aussi Tilio Bertolo et Oivin Scarbo, deux autres batteurs qui ont aussi gagné la chaîne avec moi. Donc, si on peut dire ça, le dernier, c'est un peu
la conclusion
de ce parcours, voilà, auquel je tenais beaucoup. Donc, je suis très content d'avoir pu les publier tous les trois.
Alors, on a envie de savoir un petit peu comment vous travaillez, vos compositions, comment naissent-elles, comment ça se passe quand vous êtes devant le clavier ou une partition, je ne sais pas, comment travaillez-vous?
Alors, disons que, au moins, pour ce qui est mon expérience, bien évidemment, il y a des pistes différentes, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux que j'ai commencé à jouer il y a beaucoup d'années, et il y a des morceaux qui sont arrivés vraiment tout de suite, voire presque en studio d'enregistrement. J'ai un peu cette cette idée qu'il y a des morceaux qui ont besoin d'un parcours, c'est-à-dire qu'ils se renouvellent, ils changent au cours des années. Et ça m'arrivait aussi de les enregistrer plusieurs fois en studio d'enregistrement. Notamment, cet album était enregistré dans un super studio italien qui s'appelle Arte Suono par Stefano Amerio. C'est un extraordinaire ingénieur de son italien qui travaille avec beaucoup de musiciens, notamment Anouar Brahem, pour qui suit la scène aussi du jazz contemporain. Et disons qu'il y a des morceaux qui vraiment ont eu besoin d'avoir des expériences. Moi, je trouve, par exemple, l'expérience de la musique, des concerts, de la musique live, très importante pour que le morceau puisse continuer
à vivre,
à croître avec des expériences, même avec le rapport avec le public. Et donc, disons, il y a une évolution sur certains morceaux qui a fait que, par exemple, des morceaux de ces derniers albums, ils ont pu être publiés parce que je les avais enregistrés plusieurs fois. Mais je n'étais pas satisfait du résultat. Ouais. Et d'autres, effectivement, ils sont le résultat d'une certaine improvisation, si on peut l'appeler comme ça, entre le piano et un système électronique de synthétiseur modulaire que j'ai intégré en commençant par le deuxième volume et dans ce troisième volume aussi.
Dans ce troisième volume, Piano Musique, il y a aussi un hommage à Martin Luther. On est dans une émission protestante, donc forcément, on ne pouvait pas passer à côté. C'est une variation intitulée Forte Roca, allusion à cet un rempart que notre Dieu, en français, le plus connu des cantiques du réformateur. Comment la foi et l'histoire protestante se glissent-elles dans votre univers musical, Alessandro ?
Alors, c'est une histoire assez longue parce que, effectivement, ça vient de loin. Ça commence avec mon premier album, Aphorismi protestanti, justement.
Vous venez d'une famille protestante ?
Alors, je ne viens pas d'une famille protestante. Ma famille est d'origine catholique, on peut dire comme ça, comme la plupart
beaucoup
de
d'Italie.
Toutes les familles italiennes, je dirais. Mais j'ai découvert un peu tard, effectivement, le protestantisme en Italie. Donc, on s'agit d'une vraiment une petite communauté par rapport au tout ce qu'on va, bien sûr, l'Église catholique est majoritaire en Italie. Et je fais partie d'une petite église, l'Église vaudoise, valdaise en italien. Et justement, c'était aussi cette fréquentation, disons, un peu plus tard, bien sûr, j'étais déjà étudiant en lettres et philosophie, je me suis intéressé un peu plus à la lecture de la Bible, et j'ai rencontré une communauté, justement, l'église méthodiste de Parme. En fait, en Italie, les deux églises sont rattachées. Depuis, c'était sûrement un parcours intéressant qui m'a amené vraiment à connaître beaucoup, à découvrir beaucoup de similarités entre la spiritualité et la musique. Je pense qu'il y a toute une histoire, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a une partie qui, par exemple, représente le rituel et tout ce qui est lié aussi à la parole. Je trouve ça très intéressant en tant que musicien de développer cette idée. Donc, l'idée du premier album, c'était de récupérer des morceaux qui ont des chants sacrés, des hymnes sacrés qui font partie de l'expérience de l'Église vaudoise en Italie, mais aussi de l'Église protestante
plus court, largement.
Voilà, plus largement. Et effectivement, ces morceaux en particulier, c'était une idée effectivement d'un pasteur, Paolo Tonina, qui travaillait à la télé suisse. En fait, on avait fait une petite émission il y a beaucoup d'années, et justement, je pense que j'ai joué ce petit morceau au piano pendant la balance des sons, et il m'a dit « Tiens, mais pourquoi on ne fait pas
ça ?»
On fait pas ces morceaux, en fait, l'émission, en fait. Donc, on a improvisé, on a enregistré en vidéo cette musique, et finalement, c'est hyper bien passé. Et depuis, j'ai commencé à la jouer en concert. Quasiment, c'est la seule reprise que je joue dans mes concerts. Et enfin, j'ai pu l'enregistrer pour cet album. J'y tenais énormément à l'enregistrer parce que ça fait partie, quand même, de ce que je joue régulièrement aussi en concert.
Alors, on parlait des Vaudois, on peut évoquer Torre Pellice, qui est un lieu un peu emblématique des Vaudois, dans le nord d'Italie, pas très loin de Turin, dans la montagne, là, avec de magnifiques musées, toute l'histoire à découvrir, notamment des Vaudois et des méthodistes, puisque les deux églises sont unies.
Tout à fait, tout à fait.
Je vous propose d'écouter naturellement un extrait du morceau dont nous parlons, là, un piano qui devient très percussif, puisque vous jouez sur clavier, mais aussi sur les cordes et sur la structure même du piano, c'est Forte Roca.
Thank you.
On continue d'évoquer avec vous, Alessandro Sgobbio, la dimension spirituelle de votre musique. Et je le disais, vous intervenez aussi dans des paroisses protestantes sur Paris, là où vous vivez, à Montparnasse-Plaisance, et puis également à Pantemont-Luxembourg.
Oui, tout à fait. C'est une pratique spirituelle et aussi une opportunité pour aussi retrouver aussi des personnes amies qui font partie de ces communautés avec lesquelles j'ai passé aussi des expériences importantes et aussi auxquelles je tiens énormément. Donc j'aime bien renouveler cette collaboration et ça m'arrive effectivement de passer quelques dimanches au culte à jouer du piano. Et,
donc vous accompagnez la liturgie au piano ?
Oui, j'accompagne la liturgie et c'est vrai que parfois il y a aussi l'occasion parfois de pouvoir effectivement récupérer quelques chants, quelques hymnes à ma façon.
Oui, alors j'allais dire, il paraît que vous permettez de partir un petit peu dans le jazz aussi et d'amener votre style, et ça c'est très beau.
Bien sûr, c'est quelque chose que j'aime bien faire, bien évidemment en cherchant quand même une sorte de cohérence avec la liturgie musicale et tout ce qui se passe bien sûr autour de moi. Bien évidemment, ce n'est pas un concert de musique, donc l'idée c'est quand même d'essayer
d'accompagner.
Et oui, aussi de trouver une façon de récupérer l'énergie, par exemple, d'une certaine prédication, d'une certaine parole qui est prononcée en musique. Donc, une sorte de commentaire qui est cohérent avec ce qui se passe.
Bien sûr.
En même temps.
En juin dernier, je recevais autour de la fête de la musique le batteur Thibaut Foulon qui nous avait évoqué un certain nombre de liens métaphoriques qu'il percevait entre jazz et protestantisme. Justement, est-ce que vous, de votre côté, vous l'avez un tout petit peu évoqué déjà, qu'est-ce que vous observez, vous ?
Alors, déjà, je pourrais dire que peut-être mon parcours est plus lié, si on peut dire ça, à l'idée de la méditation et même à l'idée d'une musique qui n'est pas forcément liée à un genre particulier. Bien sûr, je m'occupe de jazz, j'ai fait des études de jazz, bien évidemment, mais disons que depuis quelques années, j'aime beaucoup l'idée d'une musique qui puisse être authentique et surtout personnalisée, si on peut dire ça. Et en même temps, je m'intéresse énormément à une particulière fonction de la musique. Effectivement, la musique peut avoir énormément de fonctions. Il peut y avoir de divertissement, je ne sais pas, énormément de possibilités.
Bien sûr.
Et dans mon cas, je privilège l'idée d'avoir un outil pour la méditation, quelque chose qui puisse éventuellement inspirer d'autres musiciens, musiciennes, d'autres personnes, tout simplement, moi-même en premier aussi. Et donc, j'aime beaucoup travailler autour de cette idée, voilà, d'une musique qui puisse, qui est quelque part créée comme un jardin protégé, où c'est possible éventuellement de regarder en soi-même, de regarder les autres, dans le sens de vraiment les voir vraiment, et trouver une connexion avec, avec les personnes, avec le monde. Et bien sûr, après, chacune peut faire effectivement ses propres pensées, expériences et trouver ses propres résultats. L'idée, ce n'est pas vraiment d'arriver à un résultat, mais c'est le parcours, effectivement, qui m'intéresse.
Ouais. Plus que le but, le chemin.
Exactement.
Et le jardin protégé est une très très belle image, je la garde. Dans Solae, le rendez-vous avec la parole nous offre un moment d'écoute du texte biblique. C'est vous qui avez choisi ce passage, Alessandro, et plus précisément deux péricopes. Le verset 7 du psaume 27 et le verset 30 de la seconde aux Corinthiens, chapitre 11. On va les écouter toutes les deux qui nous sont lues par Emmanuela RM.
Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi. Accorde-moi ta grâce et réponds-moi. S'il faut faire le fier, je tirerai ma fierté de ma faiblesse.
Alors Alessandro, vous me disiez que ce choix de verset était en lien avec l'un de vos morceaux.
Oui, tout à fait. On s'agit justement d'un choix que j'avais fait pour un morceau qui est le début d'un album qui s'appelle Forest, d'un projet scandinave, italo-scandinave.
Oui, vous avez vécu en Scandinavie.
Oui, j'ai passé 2 ans en étant étudiant de master à l'Académie norvégienne de musique d'Oslo, ce qui m'a permis aussi de pouvoir visiter et vivre aussi à Göteborg. Justement, le master, il était itinérant, donc j'ai pu passer aussi une petite période à Göteborg et à Copenhague, à l'Académie rythmique de musique RMC de Copenhague. Et effectivement, pendant cette période, j'ai créé un groupe qui s'appelle Silent Fires, qui inclut aussi des musiciens, des jeunes musiciens et musiciennes norvégiennes extraordinaires, et une danseuse aussi qui nous accompagne sur scène. Et l'idée de ce projet Silent Fires, c'est effectivement l'idée de créer comme des prières modernes pour la contemporanéité. Donc l'idée, c'était effectivement de choisir parfois des textes bibliques, parfois des textes que j'ai écrits moi-même, et aussi des textes qui provenant d'autres sources. Voilà, pour aboutir un peu cette idée d'avoir une récolte de morceaux dédiés à la méditation, à la spiritualité. Et le premier morceau, il s'appelle « En Asteneia ». Justement, en grec, ça nous rappelle dans la souffrance. Et l'idée, c'était aussi de faire un collage de différents textes. Il y a des textes à moi, il y a un petit verset de Maya Angelou, et il y a bien justement ces deux citations de la Bible. Et je pense que ce soit très actuel d'évoquer aujourd'hui ces deux textes bibliques, puisque bien sûr, si on ouvre le regard, pas forcément à nos sociétés qui sont plus ou moins privilégiées, dans le sens qu'on ne vit pas une époque de guerre, de violence, disons, à niveau personnel, au niveau de société. Je pense que ce qu'on regarde dans le monde tous les jours, surtout depuis quelques années, on a en face ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza. Il y a une croissance de violence que je trouve inouïe. Et je pense que ces paroles puissent résonner énormément pour chacun, chacune à sa foi ou à sa non-foi, comme un cri aussi de foi pour les personnes qui ont moins de privilèges que nous.
Voilà. Justement, vous avez dédié certaines de vos pièces à des personnes victimes de guerre, d'injustice. La situation dramatique à Gaza vous marque aussi tout particulièrement. Dans un monde en crise qui est justement, comme vous le disiez, marqué par la violence et l'incertitude, la foi peut certainement jouer un rôle, mais quel rôle peut jouer aussi la musique ?
Bien sûr, la musique est par définition est une langue qui n'a pas besoin d'être traduite, c'est-à-dire que c'est un moyen de pouvoir communiquer entre nous musiciens, mais pas que musiciens, avec notre public. Bien sûr, on n'a pas besoin d'un vocabulaire, on n'a pas besoin de se comprendre. C'est quelque chose qui arrive d'une manière un peu plus directe aux personnes. Je pense que ce soit effectivement un moyen pour communiquer, pour parler, aussi pour discuter. Il ne faut pas forcément être tout le temps d'accord sur certaines choses, mais c'est sûrement un véhicule qui permet un dialogue. Et tant qu'on a un dialogue, ce sera toujours une bonne idée, et surtout peut-être une possibilité de solution de certaines problématiques.
Avant de laisser la parole à Vincent Smetana pour sa chronique, je vous propose d'écouter un extrait de ce morceau dites-le.
En Asteneia.
Vous le dites mieux que moi, que l'on peut traduire par dans la faiblesse, dans la souffrance, sur l'album Forest, enregistré donc avec votre ensemble Silent Fires. Anesteia, Alessandro Sgobbio avec l'ensemble Silent Fires sur France Culture. La faiblesse d'un simple mot qui a pourtant la capacité à le dire. Toujours le mot pour dire. C'est la chronique de Vincent Smetana dans Solae. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous qui êtes aussi musicien d'ailleurs, j'imagine que cette rencontre ce matin avec Alessandro vous parle beaucoup.
Beaucoup, beaucoup.
J'imagine.
Très inspirant.
Alors le mot choisi ce matin, si j'ai bien suivi, c'est improvisation. Vous nous la faites en mode impro, là, ce matin, ou bien...
J'adore le mot improvisation. Improviser, c'est respirer la vraie mesure du réel, c'est laisser chaque émotion, chaque idée prendre le risque de déboucher sur une infinité, car quand rien n'est prévu ni prédéfini, l'imprévisible peut devenir la norme délicieuse, sans itinéraire annoncé, sans préavis. Tiens, par exemple, voilà, soudain, sur un mode imprévu, je m'arrête de parler.
Silence. Le silence à la radio.
Qu'est-ce qu'on fait? On improvise dans le silence. Improviser du latin.
Improviser un peu.
Improviser sur le mot. Voilà. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, se saisir du présent. Improviser du latin improvisus, composé de un et de provisus, participe passé de providere, prévoir. Donc, impossible à prévoir. Improviser, pronominal du premier groupe, qui signifie composer, sans préparation et sur le champ, une répartie. Des vers, un air de musique, un discours, une méditation, une chronique, une réponse, une recette, un menu, une parole émue, un baiser.
J'aime beaucoup la parole émue, le baiser, mais j'ai une tendresse particulière pour la recette. Mais n'ajoutons rien à ce commentaire, ne partez pas en improvisation inutile, Vincent.
Je pourrais, tout à propos, car oui, improviser, c'est un concept qu'on utilise pour la musique, les musiciens ou les comédiens aussi, mais... La vie quotidienne est truffée de moments où il va s'agir d'improviser. Le métro qui se bloque dans le tunnel obscur à mi-chemin entre Châtelet et Cité. Une panne d'électricité, une rupture d'anévrisme, un bagage abandonné, un yaourt périmé. Un ami qui frappe à la porte à 2h du matin réclamant un souper. Une promenade amochée par un oursin caché dans la poche du ciré. Dans un frigo quasi vide, une boîte de 6 œufs dont 4 sont cassés. Un bébé qui régurgite son goûter sur mon épaule entre Odéon et Saint-Germain-des-Prés. Soudain, la réalité surgit, nous saute au visage ou nous éclabousse les mains avec une sidérante spontanéité et nous voilà contraints d'improviser. Improviser pour que la vie continue malgré les incidents, les manquements, les froids, le vomi, les stupeurs, les surprises et les scrupules. Improviser, c'est-à-dire... continuer notre chemin en ayant perdu la possibilité de tout contrôler, c'est-à-dire sans avoir eu le temps d'organiser quoi que ce soit, hop, le cours normal de la vie m'échappe, je perds le fil, donc j'improvise, obligé, je saisis l'audace dans l'instant, dans le silence, j'improvise, j'envahis amoureusement le territoire des possibles, je laisse tomber ce qui est prévu, prédit, précis, contraint, contrit, juste, je vis. Alors oui, pourquoi est-il si urgent de renouer avec l'art d'improviser, se demande le trompettiste Ibrahim Malouf dans son livre « Petite philosophie de l'improvisation ». Eh bien, il questionne l'idée qu'au-delà de la musique, l'improvisation est une véritable philosophie de vie, de connaissance de l'autre et de soi, de dépassement de nos peurs et de la boue de nos non-choix. Car improviser, c'est ça, c'est se laisser porter par son intuition, ne pas rester scotché dans le fatras des codes sociaux ou esthétiques, les normes et les mesures, ne pas se laisser momifier par la peur de l'erreur, l'ennui, le risque, la gêne. Improviser, c'est douter sans craindre la chute, c'est avancer sur la brèche avec appétit, rétamer nos réticences, distendre les limites de l'imaginaire et faire de l'émerveillement une matière d'endurance. Quand Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?», il nous invite à l'improvisation du vivant. Viens et vois, formule ta réponse en chemin, en confiance et en joie. Lâche ce qui est connu et navigue à vue sans contraindre ni l'échec ni la bévue. Ouais, là je sais, vous allez dire, c'était pour la rime, c'est gratuit. Il s'égare, votre chroniqueur belge, cher monsieur.
Si Vincent s'égare en plus, ce serait plutôt du Nord, venant de Belgique. c'est moi qui m'égare, mais pour ceux qui n'auraient pas compris, enfin bon.
J'ai compris, ça me fait penser à... Vous connaissez Agar du Nord, le Viking? Vous avez la ref ou pas? Un petit cartoon? Non, bref. Soit.
Bon.
Moi, je réponds que si quelquefois je m'égare, c'est plutôt par audace que par mégarde. Mes fantaisies se suivent et s'observent, mais d'une vue oblique. Les mots de mes chroniques n'embrassent pas toujours la matière. Non, c'est vrai, souvent ils l'esquivent. Mais c'est par quelques marques drôlatiques ou poétiques. Car oui, j'aime l'allure poétique de la vie. Je gambade parmi les mots car j'ai confiance dans le langage du vivant. Je sais bien qu'il se trouvera toujours dans un coin. Quelques mots qui ne se lassent pas d'être découverts ou dépiautés. Quelques paroles qui attendent qu'on touche le pan de son vêtement. Ou si je m'égare, ce n'est pas que je m'égare, c'est que j'improvise. À saut et à gambade, délicieuse expression que j'ai piquée ce matin à Montaigne, voyez-vous, signifiant ainsi tout simplement l'idée d'une joyeuse liberté créatrice. Car ce sont elles, je crois bien, la liberté et la joie qui provoquent en moi, à l'occasion d'une lecture dans ce studio, d'une promenade dans les bois, d'une surprise dans le métro ou d'un souper partagé, ce je ne sais quoi d'euphorisant. L'improvisation, langage unique, intime, audacieux, organique. Improviser, c'est être présent à soi, en résonance avec les autres et le monde alentour, c'est-à-dire se sentir vivant, mais vraiment vivant.
Eh bien, merci Vincent. Le Keith Jarrett belge du verbe, ça vous va bien? Alessandro, l'improvisation dans votre manière d'aborder la musique, et ce que disait Vincent à l'instant, vous le vivez, vous, vraiment?
Oui, c'est quelque chose qu'il faut renouveler et sur laquelle je pense qu'il faut aussi réfléchir. C'est-à-dire que C'est une pratique. C'est vrai, on n'improvise pas complètement en improvisant. Quelque part, on cherche nos mots pour pouvoir après improviser avec. Donc, je pense qu'on improvise de toute façon avec confiance, au moins. La bonne improvisation, elle fonctionne quand elle est faite avec confiance. Et il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de pistes pour pouvoir développer ce genre de, d'atouts. Par exemple, j'ai beaucoup réfléchi autour de ça avec mon professeur de musique à l'Académie d'Oslo, un excellent pianiste qui s'appelait Michel Perrin. On a parlé beaucoup de musique et spiritualité dans l'improvisation aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi un mouvement, il y a des mouvements qui vont dans la direction de la bonne improvisation, dans la direction d'une énergie qui est justement la juste, la bonne, pour que la musique puisse fonctionner, pour que la musique puisse se développer en temps réel devant nos yeux, nos oreilles. Et donc, ça reste une pratique complexe, mais finalement, qui a besoin aussi d'une simplicité d'idées, de développement, je trouve.
Si un auditeur devait découvrir votre musique, Alessandro, pour la première fois, par quelle pièce aimeriez-vous qu'il commence ? Et ce sera d'ailleurs celle que nous utiliserons dans quelques instants pour nous dire au revoir.
Alors, je pense qu'un morceau auquel je tiens énormément, qui s'appelle Fireflies, ce serait idéal. C'est un morceau qui est aussi le début de cette trilogie pianistique, Piano Music. C'est un morceau dédié à mes parents, Stefano et Yolande. J'ai trouvé très important dans cette trilogie de me rattacher à l'idée des dédicaces, en fait, musicales, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire de s'asseoir au piano, l'idée de s'asseoir au piano, de commencer à jouer une mélodie qui, justement, me rappelle quelque chose de très important pour moi. Ça peut être une personne très proche de moi, une personne que j'ai jamais rencontrée. Ça peut être des lieux, ça peut être des situations qui m'ont beaucoup marqué de ce qui se passe dans le monde. Oui. Et donc, je pense que c'est un morceau en plus qui a une mélodie qui rassemble à l'intérieur un peu d'amour, l'amour familial aussi, mais aussi l'amour vers l'humanité, si on peut dire ça. Donc, c'est un morceau que je pense soit idéal pour ce genre de propos.
Merci beaucoup Alessandro Sgobbio, très belle route musicale à vous, humaine et spirituelle. Si nos auditeurs veulent retrouver des infos, découvrir vos prochains projets et les anciens, un passage par votre site internet dont nous mettrons aussi les références sur la page de l'émission sur le site de France Culture, www.alessandrosgobbio avec deux B, .it. Alessandro, SGOBIO.it. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Et on se quitte naturellement avec ce morceau que vous avez choisi, Fireflies. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Massimo Bellini et Thomas Jost, et avec Inès De Bruyne à la prise de son. Émission à réécouter cette semaine sur le site protestant-au-pluriel.org et à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision ce matin à 10h sur France 2, votre magazine protestant Ma Bible, avec les pasteurs Amos, Raphaël, Ngoua Mouri, Éric Le Guéhennec, Delphine Deninger-Kaiser et l'animatrice biblique Laurence Belling qui reviennent tous ensemble sur le parcours du cousin de Jésus, Jean-Baptiste. À suivre ici sur France Culture les informations et talmudiques, ensuite présentées par Marc-Alain Waknin. Le temps pour moi de vous dire, de vous souhaiter un bon dimanche à chacune et chacun.